amoureux du jazz. Marie-France Guimaroche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dans le livre « Les musiciens de jazz et leurs trois vœux », Freddy Redd détaille très précisément ses souhaits à Panonica de Koenigswarter, qui les retranscrit fidèlement. Freddy désire, premièrement, un ranch avec des chevaux. Deuxièmement, voyager partout dans le monde. Troisièmement, le groupe idéal. Le pianiste Freddy Redd, auteur et acteur en 1959 de l'immortelle musique du Living Theatre de Jack Gelber, The Connection, musique que transcende le sax alto de Jackie McLean, un classique d'entre les must, a conservé à 88 ans la moelle de son inspiration. Une série de concerts au Festival Pianissimo de Sunnyside à la fin juillet, début août, témoigne de la vitalité de l'autodidacte, né en 1928 à New York. La révélation du jazz touche à Redd en écoutant un disque de Charlie Parker chez un copain. Ce jour-là, j'ai su ce que je voulais jouer, une musique dégageant autant de feeling, d'émotion et de profondeur. Nous continuons avec la suite de « There Will Never Be Another You ». Thank you. Tout ceci nous est raconté dans le blog de Bruno Pfeffer pour Libération, qui lui demande « Et Charlie Parker ?» Nous jouions dans notre appartement de New York. Chips, le manager de Bird, habitait l'immeuble. On le voyait souvent passer. Une veille de Nouvel An, au début des années 50, Bird est entré. La pièce était remplie de filles. Il a empoigné l'alto. A ébloui l'assemblée. Une heure plus tard, il s'est souvenu qu'il avait un concert à donner, mais qu'il manquait un batteur. Mon ami, Ron Jefferson, s'est immédiatement proposé. On a vu une voiture, je suis montée dedans, et l'on s'est retrouvé au club Montmartre sur la 4e avenue, juste au croisement de Greenwich Village. Sur place, Parker m'a demandé de jouer. J'ai sauté sur l'occasion. Charlie pouvait développer des lignes extrêmement complexes, mais nous n'y prêtions pas grande attention. De toute manière, nous n'aurions jamais pu le suivre. C'est Coco de Charlie Parker, enregistré en public le 29 décembre 1945 au Carnegie Hall de New York. Je suis très émue de rencontrer Freddy Redd, confie Bruno Pfeffer. The Connection figure parmi mes disques de chevet. Assis en face de moi, dans le sous-sol de l'hôtel Victoria Châtelet, au lendemain de la prestation avec son Color, quartet au Sunside, impressionnante d'énergie et d'inspiration, où le sax ténor de Tony Lakatos épouse des lignes cultissimes de The Connection. L'octogénaire se remémore les grands du jazz avant de partir pour la Belgique. Charlie Parker, donc. On essaie de faire preuve de feeling. Tout ce que la situation exigeait, c'était de participer au feu de joie, à la frénésie, à la fête que Parker allumait. Vous ne pouvez pas imaginer la consécration que cela représentait de figurer à côté de lui. On en sortait meilleur. Le langage de Bird était habité de jazz, de bebop, de blues, certes, mais surtout par la vie de l'Amérique. Je me croyais au ciel. J'ai assuré toutes les soirées dans le club. On s'est revus plusieurs fois par la suite. J'ai grandi à l'époque des big bands, reprend Freddy Redd. Au milieu des disques de Duke Ellington, je suis portée par la culture de la tradition. Parker représente le choc fondateur de ma propre musique. Et Coleman Hawkins, sans doute le lien entre la tradition et les modernes. Ils sortent tous de lui. Les chorus étaient phénoménaux, comme s'il les avait composés dans sa tête avant de les entamer. Des émotions inouïes passées par son ténor. Des flots de phrases ininterrompues, richissimes. J'ai travaillé, joué avec lui, quel type exquis. Et Thelonious Monk. Je l'ai rencontré alors que je travaillais avec le batteur Art Blakey. On s'est croisés, souvent dans la maison de son ami Panonica. Nika de Königswater, sur les rives du New Jersey. J'ai vu défiler Kenny Dorham, Gigi Johnson, John Coltrane, Larry Gales, Sun Ra, etc. On passait les journées à la table de ping-pong. Difficile de battre Monk. Il avait une manière très étrange d'empoigner la raquette. Monk ne pouvait décidément rien faire comme tout le monde. Quant à discuter, à partir du moment où vous vous lanciez, il enchaînait. Sonny Rollins m'a demandé de le suivre en Californie pour un contrat dans un club de San Francisco. Impossible d'être plus concentré sur la musique que lui. Sur un thème, les idées semblaient inépuisables. Il savait reprendre les thèmes à la manière de Parker, de Hawkins, de n'importe quel saxophoniste, et souvent bien mieux qu'eux. Il disposait d'un nombre incroyable de becs de saxophones adaptés au style de chacun d'eux. Il m'a écrit il y a quelques années, ajoute-t-il. Adorable. Et Charles Mingus, Charlie, brillant, mais insupportable. Je m'entendais avec lui, mais j'observais qu'il était prêt à tyranniser les musiciens pour obtenir le résultat qu'il voulait. Et il y arrivait toujours. Pour assurer une tournée en Europe, j'ai demandé à mon ami Cécile Taylor de former un groupe. Il a pris la place. Évidemment, il a interprété les compositions à sa manière. Dexter Gordon a pris le relais. Idem avec sa touche personnelle. On est dans le jazz, c'est comme ça. Bruno Pfeffer demande alors à Freddie Redd : quel est le secret pour composer ? Mais jamais je ne me suis posé la question. À qui pourrait-on décemment l'adresser ? À Dieu ? Composer ? Quoi d'autre que des notes, des accords qui apparaissent et qui s'enchaînent? Cela ressemble à tomber amoureux. Cela se produit, voilà tout. Pour moi d'ailleurs, souvent, je me suis mariée 3 fois. Quant à moi, j'ajoute ici en conclusion une réflexion d'un spectateur qui vous dira tout l'enthousiasme de son public. Jean-Louis raconte « J'y étais hier soir. Suis restée scotchée. Il paraissait faiblard avec la canne. Mais sitôt assis, le feu d'artifice. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré et réalisé par Émilie Glory, qui a aussi découvert et enregistré tous les morceaux joués par Freddy Red pour cette émission dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.